journal. Demandez-le le journal des jours, le journal. Le voici, c'est celui d'aujourd'hui même, le journal, allez-y, le journal.
Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste.
Radio Canu, 102.2.
Canu Info.
Gloire au journal.
Bonjour,
bonsoir.
Bonsoir.
Et bonsoir.
Et bonsoir.
Et c'est l'heure du
Canu Info
du mercredi. Les Canu Info.
Canu Info
du mercredi.
Il est 19h passé de 3 minutes et c'est l'heure du Canu Info. Ce soir, on va parler de...
Mégabassines en réalité autorisées.
Non, arrêtez.
Bon, bah d'accord, je vais toutes les dire parce qu'il y en a que moi qui ai un point sur Mayotte. Non, je vais pas le dire.
Non.
Le type qui défend les baleines, enfin libéré. Les chroniques de la bouse, c'était pas du tout marqué ça sur le petit papier. Et après, ce sera la fin. Mais ce sera déjà pas mal.
Ah ouais, on vous annoncera quand même la manif de samedi pour la Palestine.
Et on commence comme d'habitude par des petites brèves.
Et du coup, attendez, je suis perdu puisque... Et du coup, l'EFN a décidément des problèmes avec l'argent public. Depuis le 29 novembre, pour tout don de 50 euros au FN, vous obtenez un exemplaire du livre de Merdarella. De leur côté... Ils comptent ça comme une vente du livre. Et de votre côté, enfin du vôtre, j'espère que non. Ouais, c'est interdit. Si vous faites ça, changez de chaîne de radio. En tout cas, du côté du type qui te fait le don, c'est défiscalisé à hauteur de 66%. Le bouquin vous revient donc à 17 euros au lieu de 22 euros. C'est malin. Et c'est win-win, comme on dit dans la langue de Macron. Alors vous imaginez bien que si je vous raconte ça, c'est pas parce que j'essaye de vous faire la pub pour le livre de Merdarella, mais bien parce que c'est totalement illégal et du coup c'est complètement du détournement de biens publics, encore une fois. Alors je sais pas exactement le nom du... C'est peut-être pas ça exactement l'intitulé de l'infraction, mais enfin vous voyez ce que je veux dire.
D'une manière ou d'une autre, c'est le RN qui tape dans la caisse.
C'est encore le RN qui tape dans la caisse pour pas changer.
Le chef militaire du groupe Hayat Tahrir al-Sham, HTC, menant la coalition qui a pris le pouvoir en Syrie, a annoncé hier à l'AFP que la prochaine étape serait la dissolution des groupes armés, à commencer par le sien, pour les fondre au sein de la future institution militaire. Il a par ailleurs affirmé à l'AFP que le nouveau pouvoir voulait étendre son autorité sur les zones kurdes du nord-est de la Syrie et qu'il refusait le fédéralisme. Gros danger donc pour le Rojava, dont la société horizontale est plus que jamais menacée.
Et bonne nouvelle pour les occupants du square du Béguin dans le 7e arrondissement, puisqu'un bâtiment vacant va leur être mis à disposition par la mairie. Et on sait pas trop pour combien de temps, mais voilà, en tout cas c'est temporaire, mais ça va leur permettre un peu de souffler, comme quoi mettre la pression, des fois ça marche.
Et du coup, les 19 et 20 décembre, soit demain et après-demain, 9 personnes passeront devant le tribunal d'Evreux. C'est en Normandie apparemment. Elles sont accusées d'avoir participé à une action contre la FARC. La FARC, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une organisation qui est notamment connue pour avoir financé Daesh, pour qu'elle le laisse fabriquer du béton sur le territoire du califat autoproclamé. La cimenterie avait été sabotée dans le cadre, une des cimenteries de la FARC avait été sabotée dans le cadre d'une semaine d'action internationale en France, Suisse, Belgique et Allemagne du 9 au 12 décembre 2023.
Et voilà, bah, on souhaite bon courage à ces 9 personnes. Politique politicienne en France, une possible architecture du gouvernement à prendre avec des pincettes semble tourner avec, attention, au ministère des Armées, Elisabeth Borne, au ministère des Affaires étrangères, Darmanin, Retailleau à la sécurité, ça c'est pas très étonnant, Catherine Vautrin à l'éducation, Xavier Bertrand, ministre de la Santé et du Travail et des Solidarités, Roland Lescure, vous vous souvenez, c'est celui qui était pressenti pour être Premier ministre, et bien il a chopé le ministère de l'économie, Dati resterait à la culture, et la caution de gauche, enfin attention, de gauche, il faut le dire très 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 vite, François Rebsamen, qui était l'ancien maire de Dijon, c'était un peu le Gérard Collomb de Dijon, qui se retrouverait ministre des Territoires. Bon, bien sûr, il s'agirait seulement d'une proposition, peu de chance que tous ces choix soient des choix finaux, mais en tout cas c'est ce qui semble tourner.
Finaux, c'est même sûr que ça ils sont pas finaux, non.
Vive le changement.
Suite de l'affaire du meurtre du PDG de United Healthcare. Luigi, le tireur présumé, est poursuivi pour meurtre avec circonstances aggravantes d'actes de terrorisme. Ça plaisante pas, il encourt pour ça la prison à perpétuité avec impossibilité d'être relâché sur pas caution, mais en bonne conduite, quoi. Il faut croire que de l'autre côté de l'Atlantique, ça tremble un peu à l'idée que ça puisse donner des idées. Luigi passera devant un juge demain pour déterminer s'il est extradable ou pas. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit extra, si on peut l'extrader ou pas dans l'État de New York. Oh, attendez. Double bref.
Et il semblerait que quand le parquet national financier pointe le bout de son nez dans des histoires, ils en découvrent un tas et il s'agit de Laurent Wauquiez qui, après ses repas luxueux, il semblerait qu'ils aient trouvé de nouvelles dépenses problématiques et notamment une étude d'opinion le concernant commandée par la région Aura.
Et du coup,
il n'aurait pas payé de sa poche, du coup.
Après, mais du coup, les gens l'aimaient bien ou les gens l'aimaient pas? Parce que c'est ça qu'on veut.
Ah, bah l'article dit pas, mais. Mais voilà, on sait que les politiques sont fans de ce genre d'études d'opinion.
Ils sont un peu narcissiques.
Et on va faire un tour du côté de des méga bassines.
Et ouais. Alors une demi-bonne nouvelle en fait, un titre qui ressemble à une bonne nouvelle, mais finalement c'est plutôt pas une bonne nouvelle. La justice a décidé de bloquer le chantier de certaines méga bassines, 4 en tout, dont celle de Sainte-Soline, qui a ce côté symbolique, puisque un paquet de gens et d'amis à nous sont allés s'y faire castagner. Mais voilà, seulement 4 méga bassines, et encore quand on dit bloquer. Dans l'attente de la délivrance éventuelle, dans l'attente que la situation soit réglée, mais je vais y revenir après, la justice a suspendu les mises en chantier et les futurs remplissages en eau des 4 ouvrages. L'eau stockée à la date de la décision dans la réserve de Sainte-Soline, la seule de ces 4 dont la construction est déjà terminée, pourra quand même être utilisée par les agriculteurs raccordés, mais ils n'auront juste pas le droit à un nouveau remplissage. Alors on pourrait croire qu'il s'agit d'une victoire juridique, mais en fait c'est bel et bien une défaite. Parce que pour ces 4 méga bassines, la justice a retenu qu'il manquait une dérogation espèce protégée, vu que les travaux pour ces bassines vont niquer l'habitat d'une sorte de canard très précis, dont je ne vais même pas noter le nom. Et pour niquer l'habitat de ce canard, il faut dire avant qu'on autorise à le faire. Ce que visiblement la préfecture a dû négliger. Alors tant que la dérogation n'est pas dûment estampillée, les agriculteurs pilleurs d'eau n'ont plus le droit de bétonner ni de remplir. Ils ont quand même le droit de prendre ce qu'ils ont déjà rempli. Ça ne devrait pas prendre longtemps pour que la dérogation soit faite légalement. Vous inquiétez pas. Enfin, vous, les auditeurs et auditrices de la FNSEA, vous inquiétez pas. Les autres, les gens qui pensent à une gestion collective de l'eau pour une utilisation la plus équitable possible, vous pouvez vous inquiéter, justement. Parce que, justement, la Cour a carrément validé le principe. Et c'est ça la vraie information. La Cour a considéré que l'administration a conditionné le niveau de remplissage des réserves au respect des seuils pertinents fixés au regard du niveau de la nappe et que le projet ne méconnaissait pas le principe d'une gestion équilibrée et durable de l'eau. En clair, la Cour a dit les méga bassines, sur le principe, il n'y a pas de problème. Et comme c'est la Cour d'appel, c'est déjà un peu solide comme décision juridique et bien merdique.
Radio Canu 102.2.
La plus rebelle des radios.
Info.
Alors, un point sur la situation à Mayotte, on va commencer par le centre hospitalier de Mamoudzou qui est en état d'urgence permanent. Alors, il s'agit d'un des plus grands hôpitaux de l'île situé dans le chef-lieu de Mayotte. Les dégâts sont très importants à l'image du reste de l'île, vitres soufflées, services inondés et matériel détruit. Le chef de service obstétrique témoigne auprès de l'AFP d'un, par exemple, enfin, comme exemple, hein, mais des situations comme ça, il y en a des tas. Un accouchement prévu par césarienne n'a pas pu se faire car le bloc opératoire a été inondé. La femme a donc été contrainte d'accoucher par voie basse avec les risques et la douleur qui vont avec. Heureusement pour elle, tout le monde va bien, va au mieux que possible dans la situation actuelle. Outre les dégâts matériels, ce qui manque en énorme quantité, ce sont les médicaments. Plus de 70% du stock de l'hôpital a été détruit. Et comme sur le reste du territoire, la situation n'était déjà pas dingos à l'hôpital, avec notamment un manque cruel de soignants, ce qui paraît un peu dingue vu de la métropole, avec par exemple des nuits sans médecin au SAMU. Donc ça c'était bien avant cette histoire d'ouragan. Les toubibs sur place s'attendent au pire dans les jours à venir. Avec la dégradation des conditions d'hygiène, ça risque d'être un festival des maladies gastro-entérites et une grosse inquiétude notamment sur le retour de l'épidémie du choléra qui avait été déclarée terminée en juillet sur l'île. Exemple de la gestion coloniale de la catastrophe sur l'île, c'est l'instauration d'un couvre-feu le lendemain ou le surlendemain, si je me souviens bien, qui est maintenu encore de 22h à 4h du matin. En ce qui concerne l'eau, son rétablissement est pour l'instant que partiel, puisque la capacité de production d'eau potable n'est que de 50%, et ils espèrent atteindre les 75% d'ici la fin de la semaine. Pour l'électricité, c'est beaucoup plus compliqué. Pardon, le réseau est dévasté. Aucun agenda n'a été annoncé sur l'avancée des travaux. Idem pour les réseaux téléphoniques qui posent de gros problèmes, notamment pour l'accès à l'information de où les gens peuvent se rendre, où est-ce qu'ils peuvent aller choper un peu d'aide et tout. Et en tout cas, c'est seulement 5% des clients et clientes qui sont couverts actuellement sur le territoire. Si on parle de Mayotte, on est un peu obligé de parler de Bruno Retailleau, puisqu'il a trouvé ça beaucoup plus urgent de jouer à faire du buzz sur X en trouvant plus responsables les exilés de l'île qui arrivaient. Donc il trouvait que les sans-papes de l'île étaient beaucoup plus responsables que par exemple le réchauffement climatique ou l'ouragan qui a tout détruit sur son passage. Il a tweeté ça tellement vite que quand même les gens continuaient à mourir sous les décombres. Et si tout le monde est un peu concerné sur l'île par cet ouragan, les habitants et habitantes des bidonvilles qui sont principalement quand même des sans-papiers sont les principales victimes car ils n'ont pas rejoint les abris qui étaient mis en place par les autorités par peur de se faire arrêter et expulser.
Potentiellement aussi par mauvaise information, parce que pour le coup, c'est un truc que j'ai vu passer rapidos, mais personne est allé particulièrement
les chercher.
Ouais.
Ouais, bah oui, du coup ça fait un peu double faisceau qui a amené à ça. D'après un témoignage recueilli sur le journal Luma d'un sénateur à Mayotte, très peu d'habitants en situation irrégulière donc ont rejoint les centres d'hébergement avant le passage du cyclone. La peur d'être arrêté était trop grande. Une partie d'entre elles, voyant l'intensité des vents qui était exceptionnelle, un article que j'ai pu lire disait que ça faisait 90 ans qu'il n'y avait pas eu de tel ouragan sur l'île, ont décidé d'aller chercher des endroits où s'abriter, mais c'était bien trop tard et donc beaucoup sont morts à ce moment-là. Une députée liotte, Estelle Youssoufa, qui par ailleurs est partisane à la suppression du droit du sol, a déclaré responsable les personnes qui s'étaient opposées à la destruction des bidonvilles, car c'est bien connu que Darmanin et son opération Wambushu a contribué à diminuer le nombre de morts de l'ouragan en les faisant disparaître avant. Et oui, c'est ce qu'on appelle un magicien. Et ce n'est pas du tout à cause de ce type d'opération que les sans-papes se sont détournés des infrastructures plus safe Life pour être mis à l'abri. Ça n'a rien à voir. Retailleau, dans une interview donnée ce matin sur BFM TV, alors là c'est un peu festival, a déblatéré son discours raciste et mensonger sur l'immigration à Mayotte, parlant, alors là, je cite, de guerre hybride menée par les Comores qui pousserait les clandestins vers Mayotte pour susciter une sorte d'opération d'occupation clandestine. Donc, je veux dire, c'est-à-dire qu'on est au-delà de la théorie du complot du grand remplacement. Là, on est dans la théorie du complot de la guerre hybride menée par un État pour une occupation clandestine d'un autre État.
Alors, il avait avant ça dit attention, je vais être un peu je sais plus ce que c'était sa formule, je vais un peu exagérer.
Oui, je vais peut-être un peu trop loin.
Voilà.
Mais je le dis quand même.
Et il a rajouté que c'était pour se venger du résultat du vote d'autodétermination de Mayotte que les Comores n'auraient jamais accepté. Et que du coup, en effet, ouais, c'est vraiment la version complotiste du grand remplacement. C'est la grande vengeance des Comores qui
envoient des gens mourir à Mayotte juste pour faire du mal à la France.
Et ouais.
Avec tout ça, il souhaite également. Bon, moi, c'est vrai que c'est un peu toujours la même chose, mais il faut quand même le dire.
Une loi immigration.
Ouais, bon, ça voilà. Bon, on rappelle qu'il est démissionnaire quand même. Il souhaite durcir le droit du sol. Donc j'imagine dans sa super loi immigration qui conditionne à sa participation au futur gouvernement, c'est un peu ça qu'il avait dit. Donc il souhaite durcir le droit du sol qui, selon lui, serait d'une simplicité telle que, je le cite, il suffit, même quand on est clandestin, d'accoucher dans ces conditions pour que demain, l'enfant à sa majorité devienne lui-même français. C'est pour ça qu'il faut qu'on règle ça.
Tu veux dire, et de une qui connaît pas le droit.
Voilà, donc sans entrer dans les détails du CESEDA, qui est le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, je parie que l'expression la plus récurrente, c'est à l'exception de Mayotte, ou sauf pour Mayotte, dans chaque article ou alinéa. Le droit du sol ne fait pas exception, il a été entravé de mille manières déjà sur ce bout de territoire. Prétendre qu'il suffit pour un enfant de devenir français en naissant à Mayotte est un mensonge, qu'aucun journaliste d'ailleurs ne semble vouloir lui renvoyer d'interview en interview, sauf pour le coup sur le journal Mayotte la première que j'ai trouvé. Bon, alors c'est vrai que du coup la presse écrite le fait un peu plus, mais en tout cas quand il est en interview face à face, là jamais un journaliste, pourtant on sait qu'il va dire ça, je veux dire c'est évident,
et qu'il n'y a même pas besoin de savoir qu'il y a des sauf pour Mayotte dans le CESEDA, parce que même pour quelqu'un qui naît en France, c'est un tout petit peu compliqué qu'il suffit d'accoucher au fin fond d'un son. Il y a un tout petit peu plus de règles que ça, y compris si on enlève le fait qu'en effet, le CESEDA est rempli de...
Ben c'est ça, c'est qu'en l'occurrence pour Mayotte, il faut que, pour que ça puisse marcher au même titre que dans le reste du territoire, donc c'est un peu plus compliqué que juste naître, il y a encore des conditions de scolarisation et de demande
de durée de résidence.
Précis et de durée de résidence et tout ça. Mais pour Mayotte, il faut en outre que... au moins un des deux parents soit en situation régulière au moment de la naissance, ce qui veut dire que l'autre depuis des parents qui arrivent et qui sont en situation régulière et qui font un enfant, et cet enfant miracle sera français, la plus belle chose du monde, ça ne marche juste pas à Mayotte.
Et c'est ça, c'est qu'il faut qu'au moins du coup un des deux parents soit en situation régulière depuis plus de 3 mois lors de la naissance de l'enfant, lui voudrait un an. C'est dire et c'est vrai que bon bah déjà 3 mois. Il me semble d'autres conditions encore plus pénibles. Déjà 3 mois, c'est compliqué. Un an, autant dire, s'ils peuvent pas supprimer, s'ils peuvent pas dire, je veux purement et simplement supprimer le droit du sol à Mayotte, c'est qu'on peut pas dire à Mayotte c'est interdit, mais sur le reste du territoire français c'est autorisé. Donc c'est pour ça qu'ils veulent conditionner à un an, ce qui reviendra à peu près à le supprimer. Et en plus du durcissement législatif qui rêverait, il souhaite développer des gros moyens pour lutter contre l'arrivée de ces fameux quoi ça, ces barques grâce auxquelles les candidats et candidates à l'exil partent des Comores pour venir sur l'île, déployer des drones, on imagine bien mettre à mon avis des mines, vous savez, des espèces de grosses mines avec des pics comme ça, dès que les bateaux les touchent, bim, ils explosent. Donc c'est toujours un peu cette rhétorique de souhaiter d'empêcher que les bateaux n'arrivent pas. voilà, comme si personne d'autre avant lui y avait pensé. Et il est quand même toujours bon de rappeler que Bruno Retailleau est un ministre démissionnaire, donc c'est-à-dire que pour l'instant il n'a pas aucune fonction. Et mais en tout cas, il semble bien avoir pris la fonction de partir en campagne pour talonner le RN lors des prochaines élections présidentielles.
Et on peut quand même dire qu'il n'y a pas qu'en matière de droit des étrangers que Mayotte remet en cause le côté uni-indivisible de la France ou un truc comme ça, je ne sais plus ce que c'est la formule exactement. Mais que par exemple, en termes de droits sociaux, si vous ouvrez des droits à Mayotte, ces droits ne sont pas valables. Et y compris du coup si vous êtes un citoyen français tout à fait comme les Retailleau les aiment bien. Du coup, quand vous vous déplacez de Mayotte, c'est le seul territoire qui est comme ça, quand vous vous déplacez de Mayotte au reste du territoire français, il faut faire des démarches de réouverture de droits. Les titres de séjour aussi de Mayotte sont... Bah là, du coup, on est dans le droit de séjour, mais ils sont valables que à Mayotte. Et du coup, voilà. Et du coup, c'est vraiment un territoire... là, pour l'occasion, c'est vraiment un sous-territoire français, malgré, du coup, ce que Retailleau disait, ils ont a priori voté pour être des Français comme les autres. On les maintient dans un état de sous-citoyenneté, y compris depuis le propre point de vue de l'État qui jure ses grands dieux que la République
est une et indivisible.
Et c'est clair que ça vaut aussi carrément le coup de se repencher un peu sur l'histoire de comment Mayotte est devenu un département puis un territoire français et pas les Comores, parce que ça explique quand même beaucoup la situation un peu actuelle sur l'île, hormis cette histoire d'ouragan. Mais le fait qu'il y ait l'ouragan, c'est que l'ouragan a des telles conséquences, c'est aussi parce qu'il était très fort et très puissant, mais c'est aussi pour tout un tas de raisons.
Canu Info.
Et du coup, on va s'inquiéter des baleines.
Et on va s'inquiéter de Paul Watson, puisque la justice danoise a tranché. Paul Watson, le fondateur et grand Manitou du groupe Sea Shepherd, ne sera pas extradé au Japon. Il a même été libéré aujourd'hui. Alors Paul Watson, c'est un peu une star, hein, avec les gens qui voient le verre à moitié vide, les gens qui voient le verre à moitié plein. Si vous avez jamais entendu parler de lui, sachez en tout cas qu'il a fondé un groupe, une ONG, qui marche un peu comme une sorte de bande de pirates légalistes, qui s'appelle Sea Shepherd et qui s'oppose en particulier à la chasse à la baleine. Pour ce faire, des bateaux avec des équipages décidés vont au clash, en particulier contre des baleiniers japonais. Alors, pas de violence physique contre les personnes, ils sont non-violents, mais ils appellent ça une non-violence agressive. Parce que par contre, ils n'hésitent pas à attaquer les bateaux. Ils ont des tactiques dans le genre prendre un petit zodiaque avec un énorme rouleau de câble et tourner très vite autour d'un bateau en lâchant le câble au fur et à mesure pour que le câble aille se bloquer dans l'hélice du bateau. Et du coup, les baleiniers, c'est des gros machins. Et une fois que l'hélice est bloquée, ils sont quand même bien emmerdés. Bon, ils sont aussi capables juste d'essayer de harponner des bateaux ou de jeter des boules puantes ou des fumigènes sur le pont des bateaux baleiniers. C'est ça, ce que on peut aussi mentionner que les gens à qui ça dit quelque chose, les noms de Pia Klemp ou de Carola Rackete, c'est ces deux capitaines qui ont été un peu nos héroïnes à bord des bateaux du Sea-Watch. Quand elles ont forcé les blocus de l'État italien pour ramener à terre des migrants rescapés, toutes les deux, avant Sea-Watch, étaient dans les équipages de Sea Shepherd, donc ça a aussi formé des gens. Voilà, le Japon, qui est un pays qui a une lecture toute particulière des réglementations internationales qui interdisent la pêche à la baleine, sauf pour la recherche. Le Japon, donc, qui donne énormément de permis dérogatoires pour faire de la recherche sur les baleines.
Ils font des recherches sur le goût de la baleine.
C'est ça, c'est à peu près ce qu'ils font, effectivement. Et ben voilà, le Japon a un peu une dent contre Sea Shepherd après quelques années d'activité de cette ONG. Et ils veulent vraiment la peau de l'ONG et la peau de son fondateur et gourou. D'où un mandat d'arrêt international contre lui. Alors, sous le prétexte d'une histoire de bombe de peinture qui aurait été jetée sur le pont d'un bateau de chasse à la baleine et qui aurait blessé le visage d'un des matelots.
Bah, comparer des coups de harpon qui se prennent
c'est ça. Bref, au mois de juillet dernier, Paul Watson, qui passait par le Danemark, a été arrêté et depuis il moisissait dans les geôles de ce pays en attendant que la justice danoise se prononce sur son extradition. C'est donc fait et c'est non, Paul Watson est libre. C'est quand même toujours une bonne chose de prise.
Putain, c'est Noël avant Noël. Hein.
Il est revenu.
Tu es le seul qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool, guy, sinon je te dirai bye bye. Allez, bye bye, tu prends tes clics et tes claques et tu te tailles. Tu es le seul qui m'a et je te le dis sans faille, reste cool bébé, sinon je te dirais bye bye roux. Petite bière pour ceux qui ont reconnu le chanteur, c'est moi qui offre. Ceux qui ont reconnu la chanson, faut pas déconner. Alors ça y est, on se tape un nouveau Premier ministre, et puisque c'est dans les vieux mers de peau qu'on fait les meilleures soupes, on va se bouffer du bye roux. Mais vous inquiétez pas, mon petit doigt me dit qu'il va pas tarder à rejoindre Barnier dans le frigo de Matignon, celui où on met les yaourts périmés. Là, pour le coup, je crois qu'on est vraiment tombé sur un champion. En seulement 5 jours, il a accumulé presque autant de casseroles que Sarkozy sur l'ensemble de sa carrière. Ah bon, c'est beau la démocratie. Après la victoire de la gauche aux législatives, un deuxième Premier ministre de droite qui, en plus, nous crache à la gueule tout de suite. C'est beau la démocratie. Bayrou, qui était devenu célèbre en giflant un gamin lors de sa première campagne présidentielle, en lui lançant « Tu me fais pas les poches, hein ?» Et depuis, il nous les a faites, les poches, aux Français et aux Européens. Alors, je veux parler ici de l'affaire des assistants parlementaires payés avec des fonds européens qui travaillaient en réalité pour le parti de François Bayrou. On se rappelle, 11 contrats litigieux pour un préjudice de 293 000 euros. 8 personnes de son parti ont été condamnées en première instance, mais c'est vrai que lui, le chef, avait été mis hors de cause. Mais on oublie de dire que le parquet fait appel et, je cite, « conteste ses relax et estime que les faits caractérisent les infractions reprochées et que les preuves de ces délits sont réunies contre tous les prévenus ». Bon, on n'a pas encore de date pour le nouveau procès. En plus du pognon de l'Europe, il claque aussi le pognon du pays avec un aller-retour à Pau en jet qui aura coûté plus de 12 000 euros sans compter le salaire de l'équipe qui l'accompagne. Mais attention, c'était important. Il fallait qu'il participe absolument au conseil municipal de Pau, dont il est toujours maire, pour notamment y faire voter une aide de 25 000 euros pour Mayotte. Ah ben le gars, il aime tellement sa ville que c'est pas le genre à louper du conseil municipal. L'un de ses opposants en a d'ailleurs profité pour rappeler qu'à l'époque, il se barrait du conseil municipal, mais en laissant sa veste sur le siège, qu'une collègue était chargée de récupérer à la fin, pour faire croire qu'il était resté jusqu'au bout de la réunion. Enfin bon, pour l'instant, le problème, c'est pas tellement la réunion, c'est plutôt Mayotte. Mais avant de parler de Mayotte, on va parler de cumul des mandats. Puisque pour Bayrou, le cumul des mandats était un scandale, et maintenant qu'il est Premier ministre, il trouve que c'est bien, parce que les choses ont changé, et que aller en jet en tant que ministre à une réunion d'un conseil municipal, ça permet de garder les pieds sur terre. Et ça, ça n'a pas manqué de faire réagir Fabien Roussel, le patron des communistes français, qui a déclaré hier, en parlant de notre nouveau Premier ministre, que lui proposerait bien à la place du cumul des mandats, le cumul des mandales. Et on peut dire que le communiste s'y connaît bien en mandale, puisqu'on se rappelle qu'il avait été le seul homme de gauche avec Olivier Faure à participer à la manif de policiers, soutenue par Bardella et Marine Le Pen. Pour revenir à Mayotte, le plus pauvre des départements français vient donc de subir le passage d'un terrible cyclone, dont le bilan, t'en a parlé, en termes de vie humaine, s'annonce effroyable. C'est pour ça qu'à l'Assemblée nationale, les critiques et les questions ont fusé sur François Bayrou, lui demandant s'il n'aurait pas été plus important de se rendre là-bas plutôt qu'à Pau. Mais on ne piège pas François Bayrou aussi facilement, ce vieux briscard de la politique, qui est bien hostile à éviter de se prendre un mur pour tomber dans un trou rempli de merde, a trouvé la réponse parfaite pour clouer le bec à tous ses haters. Il a en effet indiqué à tous ses donneurs de leçons que Macron devait déjà s'y rendre et que, je cite, il n'est pas d'usage que le président et le Premier ministre quittent en même temps le territoire national.
Bon. Le territoire national.
Le territoire national, oui. Bon, alors, je sais que Mayotte...
Je voulais dire pendant le trajet, vous êtes... Ouais.
Bon, alors, je sais que Mayotte, c'est un peu loin, et que ça a été colonisé, et que ça fait partie de la République française depuis seulement l'année 1848. Bon, on va quand même le briefer. S'il a le temps avant de finir au rebut, s'il doit aller visiter l'Alsace, qu'il y débarque pas en disant « Guten Tag, s'il vous plaît, calmez-vous, on est prêt à collaborer ». Mais revenons à Mayotte, aux suites de la catastrophe et à comment la France va faire face. Eh bien, avec ou sans gouvernement, finalement, ça change rien. La France a toujours la même manière de gérer. Sur place à Mayotte, des blessés par milliers, des bâtiments détruits par milliers, pas d'électricité, pas de nourriture et même plus d'eau. Donc que fait le gouvernement ? Donc, comme on le disait, comme d'habitude, il instaure un couvre-feu et envoie les flics.
comme on le disait avant, si le Mahorais n'a plus à manger, il va pouvoir bouffer des mandales de gendarmes. Et comme plus on est dans la merde, plus on s'en prend dans la gueule, en plus de tout ça, on leur envoie Macron. Bon courage. Bon, peut-être que psychologiquement, ça se tient, hein, remplacer la tristesse et l'effroi par la colère, faut voir. Pour finir cette chronique, ce pays sans gouvernement, avec des premiers ministres sur des sièges éjectables, ça pourrait profiter aux anarchistes et on pourrait se dire que la malédiction inhérente au pouvoir est en train de le rendre autodestructeur. Mais sans vouloir casser l'espoir, je tiens à prôner la méfiance. Attention, parce qu'en ce moment, dès qu'un pays a des petits soucis de gouvernance, Netanyahou le bombarde et extermine les habitants. Ah mais non, j'avais oublié un critère. Comme on n'est pas un endroit avec une grande quantité de musulmans, on devrait échapper aux bombes.
J'allais mettre le générique de fin, mais alors déjà on m'intercepte et en plus je me rends compte.
On t'interpelle.
Parce que du coup je me rends compte, on a oublié une information importante du jour, tous.
Bah oui. Moi je l'ai pas faite parce que.
Est-ce qu'on parle de
faire, je pensais que t'allais la faire aussi.
Bah ouais, on pensait tous que t'allais la faire, je dis.
En tout cas.
Enfin, Bernard, Paul de Lausse, on pensait tous que t'allais la faire.
Sarkozy avec un bracelet électronique.
Bah oui. Bah oui. On n'allait pas laissé passer la journée.
Il a été condamné à un enferme.
Et du coup, il paraît qu'ils vont lui enlever sa Légion d'honneur parce qu'il paraît que.
Je croyais qu'ils allaient lui enlever son bracelet.
Non, ils vont lui enlever la Légion d'honneur. C'était pas arrivé depuis. Devinez qui?
Balkany.
Philippe Pétain. Oui. Du coup, il est dans le club des. Philippe Pétain. Je sais pas comment on peut l'appeler ce club.
Le club Philippe Pétain.
Et du coup, tu voulais faire la condamnation complète ou?
Ah non, pas du tout. Non. Moi, je voulais juste faire.
Sinon, on peut rajouter qu'il a du coup pris 1 an et 3 ans de suspension de droit civique, ce qui fait qu'il pourra pas voter aux prochaines élections législatives ni aux prochaines élections présidentielles. Du coup, le pauvre petit pourra pas mettre un bulletin Retailleau dans l'urne ou pour son fils d'ailleurs, puisqu'en ce moment BFM Télé essaye de nous vendre.
Jean Sarkozy.
Ouais, pas celui qui est producteur de rap.
Non, l'autre. Louis Sarkozy.
Ouais, du coup, Louis Sarkozy. Du coup, vous n'avez pas le producteur de rap, l'autre.
Et moi je voulais juste, parce que du coup je l'ai fait pendant que vous parliez, mais du coup en très très rapide, il y a la quadrature du net qui révèle l'usage d'un algorithme à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Alors on se rappelle, il y a un an de ça il me semble, ils avaient révélé de la même manière l'usage d'un algorithme dans la CAF qui en gros, bah, plus vous étiez pauvre et qui est précaire, plus votre score augmentait, plus vous étiez ciblé pour être contrôlé. Ils disent pas si c'est la même chose du côté de la CNAM, mais en tout cas si c'est le même algorithme, en tout cas ça crée les mêmes causes depuis 2018, donc c'est quand même assez vieux. La CNAM utilise un algorithme assez problématique avec un score de suspicion et qui c'est les plus pauvres à la caisse de l'assurance maladie, et c'est bien sûr les personnes qui sont à la CSS, autrement avant appelée la CMU. Donc c'est vraiment les précaires de chez précaires. Ça concerne environ 6 millions de personnes. C'est pas dingue hein, pour
il faut être vraiment très pauvre pour avoir
et donc voilà, et d'autant plus que l'algorithme ça cible vraiment les personnes qui sont sans la complémentaire santé solidaire avec la complémentaire santé solidaire gratuite, c'est-à-dire que maintenant il y a deux systèmes, une où tu payes rien et l'autre tu payes une sorte de petite contribution. Donc voilà, et ben cet algorithme sert donc à sélectionner les
c'est pas la peine d'avoir un gros algorithme. Autrement, ils éditent des pages de. Mais la Startup Nation.
Bah oui. Puis il faut qu'il y ait un truc un peu automatique qui attribue des scores plus ou moins élevés en fonction de ta situation. Donc c'est pour contrôler les gens qui seraient susceptibles de tricher à cette fameuse CSS. Donc en gros, hein, le risque de triche à la CSS, c'est éventuellement peut-être des fois de décaler d'un ou deux mois votre déclaration, vos revenus sur l'année précédente pour pas percer le plafond et basculer dans l'autre catégorie. Mais c'est quand même jouer sur des curseurs vraiment de pauvres. C'est-à-dire rien à voir avec Bernard Arnault qui bénéficie encore d'une remise fiscale de je ne sais plus combien de milliers de millions d'euros. Donc voilà, en tout cas, cet algorithme cible principalement donc les femmes précaires, les femmes qui élèvent seules des enfants. Donc voilà, ça, si vous êtes une femme seule avec plusieurs enfants, vous allez avoir votre score de suspicion augmenté. Pareil pour les personnes qui sont handicapées. Donc c'est en gros, c'est un peu le même processus qui s'était passé à la CAF pour ça. Et donc voilà, donc c'est un peu le doux choix des...
Sachant que les fraudes à l'assurance maladie, la plupart du temps, c'est plutôt les médecins. Et c'est eux qui représentent, enfin, médecins, infirmiers, travailleurs du secteur médical, enfin, pas tous les travailleurs, hein, du coup, les travailleurs libéraux du secteur médical qui représentent la plus grosse part des fraudes.
C'est ça, et puis et alors déjà comme il y a même on en a déjà parlé, mais les fraudes sont assez mini, en fait en gros ça représente quand même rien du tout. Quand ils avaient parlé, ça représente je crois à peine 1% du budget de
même pas, je crois que c'était 0, quelque chose.
Oui, voilà. Donc c'est déjà minime, et effectivement là-dedans la part la plus importante, c'est effectivement les professions libérales je crois notamment avec les infirmiers et infirmières qui
d'ailleurs on peut un peu expliquer, enfin, parce que du coup, en fait, ils se retrouvent à frauder parce que du coup, en fait, tout le monde fraude. Parce qu'en fait, par exemple, si vous êtes infirmière libérale, pour réussir à vous dégager un salaire, la plupart du temps, il faut un peu se rajouter des actes. Du coup, tout le monde met un peu des faux actes dans son truc. Bah, ils sont très très nombreuses à se rajouter des actes pour avoir des salaires qu'ils jugent corrects. Bon, après, je ne juge pas ce qu'est un salaire correct pour eux, mais en tout cas, c'est une pratique très courante dans le secteur des infirmiers libéraux. Et du coup, il se trouve qu'il y en a qui s'en mettent beaucoup plus que les autres, et que c'est souvent ça qui est considéré comme vraiment de la fraude. Mais du coup, c'est tout un système qui, de toute façon, via la tarification à l'acte, pousse les gens à la fraude, parce qu'en fait, les gens, ils sont, enfin, par exemple, être plusieurs infirmiers sur le cas d'une personne, donc t'es payé à l'acte, mais par exemple, se faire passer les infos d'une infirmière à l'autre, c'est pas un acte valorisé. Donc, par exemple, votre grand-mère qui a trois infirmiers différents libéraux qui passent, s'ils veulent s'échanger les informations sur ce qu'ils ont fait les uns les autres, et ben il n'y a pas un seul centime qui est dévolu à ça. Donc en fait, régulièrement, les infirmiers se rajoutent des actes pour financer le fait de se rencontrer, par exemple. On a fini sur ce point ?
Ouais.
Radio Canu.
Vas-y, on annonce.
On annonce la manif comme d'habitude samedi à 15h en soutien à la Palestine. D'ailleurs, c'est pas une manif, c'est un rassemblement. Et le lieu change là cette fois. Ce sera Place de la République, donc samedi à 15h pour la Palestine.
Voilà, et là je vais être rapidement en rébellion pendant qu'il nous reste quelques minutes. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil, puisqu'il y a un appel à soutien aux sinistrés du squat d'Enusière. Vous vous souvenez, c'est le squat qui a brûlé et où les gens sont dans la merde. Pour faire rapide.
Oui. Est-ce qu'il y en a encore
une jeune femme qui est morte, brûlée.
Du coup,
il y a un lien avec une cagnotte.
Exactement. Voilà.
Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même ou...
Hein?
Je sais pas.
Non,
on rajoute.
Pas du tout, c'est tout.
Bonne semaine.
Merci de nous avoir écoutés.
Semaine.
Radio Canu. C'était le Canu Info. C'était le Canu Info. C'était le Canu Info du mercredi. C'était le Canu Info. C'était le Canu Info. C'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org. Rebelle des radios.
Zonde, 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 Zonde. L'émission pour les prisonniers de Valence et leurs proches s'élargit pour le 24 décembre. It's a new day. Fuck what a bitch gotta say. Comme l'année dernière, on vous propose un méga zonzonde de fin d'année, le mardi 24 décembre, de 20h à minuit. Une émission en direct pour envoyer des dédicaces, des musiques, des pensées. On sera diffusé à Valence,
Saint-Étienne,
Lyon,
Grenoble,
Marseille,
Toulouse,
Nantes
et en région parisienne.
Ou écoutable sur le site internet de Radio Méga. 4 heures d'antenne pour les personnes enfermées et leurs proches.
Pour s'apporter de la force.
Pour faire du lien entre l'intérieur et l'extérieur.
Pour que malgré l'isolement, des personnes ressentent notre soutien.
Pour que des paroles de prisonniers prisonnières puissent retentir dehors.
Pour écouter du bon son, rire et se sentir bien ensemble.
Alors si tu veux passer un message à un proche, faire une dédicace musicale en direct, tu peux appeler au 07 44 17 84 13.
À ce numéro, c'est aussi possible de laisser un message, un vocal, un lien musical ou un son avant le 24 décembre et pendant toute la soirée.
Et vous pouvez aussi nous écrire à Radio Méga, Zonzonde, 35 rue Promso, PROMPSAULT, 26000 Valence. On pourra nous écouter depuis le centre pénitentiaire de Valence sur Radio Méga 99.2. Depuis celui de la Talaudière sur Radio Dio 89.5. Dans une partie de la maison d'arrêt de Corba, depuis l'EPM de Mézieux, le Vinatier et le CRA Lyon-Saint-Exupéry sur Radio Canu 102.2. Depuis le centre de semi-liberté de Saint-Bruno, la maison d'arrêt de Vars et l'hôpital psychiatrique de Saint-Égrève sur Radio Campus 90.8. À l'EPM de la Valentine, une partie de la centrale d'Arles, la maison d'arrêt de Luynes, le centre de détention de Tarascon, le CRA du Canet sur Radio Galère 88.4.
À la maison d'arrêt de Seyss, au CRA de Cornebarieux, au centre de détention du Muret
et dans l'EPM de Lavore,
près de Toulouse, sur Canal Sud 92.2.
Dans la prison de Nantes, sur Prune FM 92 FM.
Dans les maisons d'arrêt de Versailles et de Villepinte. À la santé, dans les prisons de Fleury-Mérogis, Bois d'Arcy, Fresnes, Nanterre, Ogny-Pontoise.
Et dans la centrale de Poissy,
sur Radio Libertaire 89.4.
Alors, rendez-vous sur les ondes le 24 décembre de 20h à minuit. Et d'ici là, faites passer le mot.
De dédicace en dédicace, on casse l'isolement.
Retrouvez toutes les informations sur le blog de la petite cuillère, Radio Canu.